Lecture des lettres des pères du désert, une émission proposée par Hélène.
Depuis quelques mois, nous vous proposons chaque jour de partager avec nous les lettres des pères du désert. Ces premiers pères de l'Église, qui sont le tronc commun entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, puisqu'ils commencent à écrire dès le IVe siècle, donc bien avant le schisme entre Byzance et Rome. Nous avons déjà médité sur l'œuvre d'Antoine le Désert, Macaire, Silouane, Climaque, Séraphime et tant d'autres. Aujourd'hui, nous poursuivons avec l'œuvre de Jean Cassien, qui était un moine scythe et qui vécut au IVe siècle. Aujourd'hui, nous aurons notre dernière conférence avec Saint Jean Cassien. Et il nous dit plus particulièrement qu'il n'y a qu'une seule source à tous nos vices et qui eux-mêmes vont toucher une des trois parties de notre âme, soit la partie rationnelle, soit la partie que l'on appelle irascible, c'est-à-dire cette force de vie qui peut devenir agressivité, soit la partie concupiscible, c'est-à-dire la partie du désir. Les vices n'ont qu'une même source et une identique origine, mais selon la partie et pour ainsi parler, le membre qui est vicié dans l'âme, elle reçoit les vocables divers des passions et des maladies spirituelles. L'analogie des affections corporelles en sert parfois de preuve, car bien que la cause en soit unique, elle ne laisse pas de se diversifier en plusieurs sortes de maladies, suivant le membre qui est atteint. Si l'humeur pécante, pécheresse, assiège la tête, qui est comme la citadelle du corps, elle donne lieu à la céphalalgie. Si elle envahit les oreilles ou les yeux, on a l'otalgie ou l'ophtalmie. Si elle se porte aux articulations ou aux extrémités des mains, c'est la maladie articulaire ou la goutte des mains. Si elle descend jusqu'à l'extrémité des pieds, l'affection change de nom pour s'appeler podagre ou goutte des pieds. Pour une même source d'humeur maligne, autant de vocables divers que de parties ou de membres atteints. Des choses visibles passant aux invisibles, nous pouvons bien croire que l'énergie des vices se trouve semblablement localisée dans les différentes parties et, si l'on peut dire, les membres de l'âme. Or, les sages distingue trois facultés dans l'âme, la raisonnable, l'irascible et la concupiscible. L'une ou l'autre sera nécessairement altérée toutes les fois que le mal nous attaquera. Lors donc que la passion mauvaise touche quelqu'une de ces puissances, c'est d'après l'altération qu'elle y détermine que le vice particulier reçoit sa dénomination. Si la peste vicieuse infecte la partie raisonnable, elle y engendre la vaine gloire, l'élèvement, la superbe, la présomption, la contention, l'hérésie, Si elle blesse la partie irascible, elle enfante la fureur, l'impatience, la tristesse, la paresse, la pusillanimité, la cruauté. Si elle corrompt la partie concupiscible, elle produit la gourmandise, l'impureté, l'amour de l'argent, l'avarice, les pernicieux et terrestres désirs. Si donc vous voulez connaître la source et l'origine du mal dont vous souffrez, sachez que c'est la partie raisonnable de votre âme qui a été blessée, car c'est d'elle que pullulent les vices de la présomption et de la vaine-gloire, et par conséquent, il faut traiter ce membre principal, si je puis dire, par le jugement de la discrétion et la vertu de l'humilité. Puisque c'est ensuite de son altération que, pensant être parvenu au sommet de la perfection et vous jugeant capable de former les autres, l'élèvement de la vaine gloire vous a emporté dans les futiles divagations que vous m'avez confessées. Il vous sera facile de retrancher toutes ces frivolités lorsque vous saurez, une fois fondé, comme je viens de le dire, dans l'humilité de la vraie discrétion. Alors, touché de contrition, vous apprendrez quelle œuvre laborieuse et malaisée c'est pour chacun de sauver son âme, et vous acquérez la conviction profonde que, bien éloigné de pouvoir enseigner les autres, vous avez encore besoin vous-même du secours d'un maître.
Сазилионе, что же вы наделали, деблале, всю семью развеяли, что же вы наделали, деблале, всю семью развеяли. Высокого крыльца повстречала сокола, встретила, поверила, девлале, на любовь ответила, встретила, поверила. Любов ответила. Зеленье, что же вы наделали, девлале, всю семью развеяли, ой-на-на-най, что же вы наделали, девлале, всю семью развеяли.
Jean Cassien nous indique maintenant comment nous soigner nous-mêmes. Appliquez donc aux membres ou à la partie de votre âme que nous avons spécialement blessée le remède de la vraie humilité. C'est parce que cette vertu est selon toute apparence plus faible chez vous que les autres, qu'elle doit succomber la première aux attaques du démon. Ici encore, il en va comme du corps humain. Lorsque survient une occasion fâcheuse, par excès de fatigue ou par suite d'un nerf corrompu, ce sont les parties les plus faibles qui se laissent entamer et succombent tout d'abord. Et c'est seulement lorsque la maladie s'y est installée qu'elle contamine de là les parties demeurées saines. De même pour notre âme. Quelque souffle de pestilence vicieuse vient-il à passer ? Elle sera fatalement touchée par le côté qui, plus délicat et plus faible, offre moins de résistance au choc violent de l'ennemi et courra le risque d'être prise par où la garde peu vigilante ouvre à la trahison un plus facile accès. C'est en cette manière que Balaam conclut avec certitude à la possibilité de surprendre le peuple de Dieu. Connaissant le faible des enfants d'Israël, il conseilla de leur tendre de ce côté le piège où ils se prendraient. Il ne douta pas de leur chute immédiate si on leur offrait une occasion de luxure, parce qu'il savait que c'était la partie concupiscible de leur âme qui souffrait la corruption. C'est aussi de cette méthode que la malignité perfide des puissances spirituelles s'emploie à nous tenter. Elles tendent principalement leurs pièges insidieux par les côtés de l'âme où elles la sentent malade. Voit-elle par exemple que la partie raisonnable est viciée en nous ? Elle s'efforce de nous tromper par le même procédé qui servit jadis aux Syriens pour le roi Akab, selon que l'Écriture nous le raconte. Nous savons, dirent les Syriens, que les rois d'Israël sont cléments. Mettons donc des sacs sur nos reins et des cordes à nos coups. Sortons vers le roi d'Israël et nous lui dirons « Ton serviteur Ben-Hadad dit, je t'en prie que mon âme vive. » Et Akab, ému du vain éloge que l'on faisait de sa miséricorde, plutôt que de vraie clémence, « S'il vit encore, dit-il, il est mon frère. » Ainsi les démons s'efforcent-ils de nous abuser quant à la partie raisonnable afin de nous faire offenser Dieu par où nous penserions obtenir une récompense et recevoir le prix de la clémence et que nous entendions à notre tour le reproche fait à Akab. Parce que tu as laissé échapper de tes mains un homme digne de mort, ta vie répondra pour sa vie et ton peuple pour son peuple. De même, lorsque l'esprit immonde dit « Je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes », il tend évidemment ses pièges du côté de la partie raisonnable qu'il s'est ouverte à ses embûches meurtrières. Il se forgeait une idée toute semblable de notre Seigneur et c'est pourquoi il le tenta par les trois puissances de l'âme, puisque c'est par l'une ou l'autre de ces trois portes que tout le genre humain est fait captif. Mais toutes les habiletés insidieuses ne purent rien gagner. Il attaque la partie concupiscible en disant « Ordonnez que ces pierres se changent en pain ». L'irascible, lorsqu'il le pousse à convoiter la puissance du siècle présent et les royaumes de ce monde, et la raisonnable lorsqu'il dit « Si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous en bas. » Cependant, ces illusions restent sans effet, parce que contrairement à la conjecture qu'il avait formée faussement, il ne trouve rien en lui de vicié. C'est aussi pourquoi nulle partie de son âme ne consentit aux ruses tentatrices de l'ennemi. Le prince de ce monde vient, et il ne trouvera rien en moi, dit le Seigneur.
Ausência, ausência. Se asa um tivesse para voar na ex-distância, Si un gazelle on fosse pas courir, ce n'est qu'un cédula. Un ton jeune avocé, un tava ma mâché. Et donc, ma José, sien, ta sède nos l'aime. Ma sonne, prince ami, ta viaja, c'est mido. N'y a liberdade un tel, et so, na n'y a sonne. Na n'y a sonne, mi est forte, un tempo protection. Un tenso bon carinho e bom sorriso. Ai, solidão tem cima, sou sozinho nasceu. Solta brilha, mata cigana, se clarão. Sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é um sino. Ai, solidão tem cima, sol sozinho nasceu. Solta brilha, mata cigana, se clarão. Sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é um sino. Mas só na pensamento, tá viajar sem medo. Minha liberdade um ter, e só na minha sonho. Na minha sonho me é forte, um tempo proteção. Um tenso bom carinho e bom sorriso. Ai, solidão tem cima, sou sozinho nasceu. Solta brilha, mata cigana, se clarão. Sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é um sino. Ai, solidão tem cima, sol sozinho nasceu. Solta brilha, mata cigana, se clarão. Sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é um sino. Ausência, ausência.
Les grandes ruses du démon. Sachez-le, la ruse la plus subtile du démon, le piège le mieux dissimulé où il précipite les pauvres imprudents, consiste à leur ravir, tandis qu'il leur promet de plus grands biens, le gain nécessaire du progrès quotidien. Il leur persuade qu'ils devraient chercher des solitudes plus cachées et plus vastes, qu'il peint à leur imagination toute fleurie des agréments les plus merveilleux. Mieux encore, il leur donne le mirage de lieux ignorés, inexistants. Il les voit comme s'il les connaissait. Il se les imagine tout prêts à les recevoir, abandonnés à leur discrétion. Nulle difficulté à en prendre possession. Quant aux habitants de la région, le menteur les représente traitables et faciles à conduire au chemin du salut. L'âme cueillera là-bas des fruits plus abondants. Mais à la faveur de ses promesses, il ne veut que l'amuser et lui ravir le profit présent. Que le moine écoute ce vain espoir, le voilà séparé de la société des anciens. D'autre part, toutes les chimères qu'il s'était formées dans son cœur s'évanouissent. Comme s'il sortait d'un profond sommeil, il ne trouve rien en s'éveillant de ce qu'il avait rêvé. Les exigences de la vie devenues plus grandes, des liens inextricables le tiennent comme dans un filet, et le démon ne lui laisse même pas le loisir de respirer. pour songer au bien qu'il s'était promis. Il a voulu fuir les visites, rares et toutes pénétrées de l'esprit surnaturel que lui faisaient les frères. Et il est pris tous les jours dans la presse des séculiers. Jamais plus il ne retrouvera, même à un degré médiocre, le calme ni la régularité de la vie anachorétique. Germain reprit, « Puisque vous avez si bien apporté remède à toutes nos illusions et que votre doctrine a su démasquer les tromperies diaboliques qui nous agitaient si violemment, nous vous prions de nous expliquer encore ce mot de l'Évangile, « Mon joug est doux et mon fardeau léger. » Car il paraît assez opposé à ce que dit le prophète. « À cause des paroles de vos lèvres, j'ai gardé des voix dures. » D'autant que l'apôtre lui-même déclare, « Tous ceux qui veulent vivre avec piété dans le Christ Jésus auront à souffrir persécution. » Ce qui est dur et semé de persécution ne peut être léger ni suave. Abraham répondit, « La parole de notre Seigneur et Sauveur est parfaitement vraie. Le témoignage de l'expérience peut nous en fournir une preuve facile. Il suffit d'entrer dans le chemin de la perfection de la manière qui convient et comme le Christ le veut. De mortifier tous nos désirs et retrancher nos volontés mauvaises. De ne point souffrir qu'il nous reste rien des biens de ce monde qui donnerait prise aux démons pour nous dévaster et déchirer selon son bon plaisir. Plus encore, de comprendre que nous ne sommes point maîtres de nous-mêmes et d'accomplir en vérité l'oracle de l'apôtre « Je vis, non pas moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Que peut-il y avoir de plus pénible? Que peut-il y avoir de plus dur pour celui qui a embrassé le joug du Christ de toute son âme et qui fondait dans la vraie humilité le regard toujours attaché aux souffrances du Christ, parmi toutes les injures qui lui sont faites, se réjouit et dit « C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les opprobes, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Quelle atteinte à son patrimoine fera souffrir celui qui est glorieux de son parfait dénuement à rejeter volontairement pour le Christ toutes les pompes de ce monde et regarde toutes ses convoitises comme de l'ordure afin de gagner le Christ. Qui méprise et écarte de son cœur toute angoisse que lui pourrait donner la perte de ses biens. Par la méditation continuelle de ce précepte évangélique, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Qu'est-ce que l'homme donnera en échange de son âme? Quelle privation pourrait bien attrister celui qui reconnaît que tout ce que les autres peuvent lui ravir ne lui appartient pas et proclame avec un courage invincible « Nous n'avons rien à porter en ce monde. » Il n'est pas douteux que nous ne puissions non plus rien emporter. Quelle indigence abattra la force d'un homme qui ne veut avoir ni sac pour le chemin, ni argent dans sa ceinture, mais se glorifie avec l'apôtre, dans les jeûnes multipliés, dans la faim et la soif, dans le froid et la nudité. Quel labeur, quel ordre si dur qu'il soit, de son ancien pourra troubler dans sa tranquillité de cœur, celui qui n'ayant pas de volonté propre, va au-devant de tout ce qui lui est commandé, non seulement avec patience, mais avec joie. Si le joug du Christ ne nous paraît au contraire ni léger ni suave, il n'est que juste de l'attribuer à notre résistance opiniâtre. La défiance et le manque de foi nous ôte tout ressort. Ensuite, par une inepte perversité, nous luttons contre le commandement, ou plutôt le conseil qui dit « Si tu veux être parfait, va, vends, ou abandonne tout ce que tu as. Puis viens et suis-moi. C'est-à-dire que nous voulons garder les biens de la terre, de là mille chaînes dont le démon nous tient attachés. La conséquence en est fatale. Dès qu'il voudra nous séparer des joies spirituelles, il nous contristera par quelque diminution de notre avoir ou une perte totale. Car toutes ces ruses tentent à ce but. Lorsque notre convoitise vicieuse nous aura rendu pesante la douceur du joug du Sauveur et la légèreté de son fardeau, captifs des richesses que nous réservions pour notre repos et notre consolation, il nous torturera sans trêve avec les fouets des soucis terrestres, prenant en nous-mêmes de quoi nous lacérer. C'est que tout homme est prisonnier dans les liens de ses péchés. Et le prophète lui dit, « Voici, vous tous qui allumez un feu et vous environnez de flammes, marchez dans l'ardeur de votre feu et dans les flammes que vous avez allumées. » Salomon aussi nous en est témoin. On est toujours puni par là où on a péché. Les plaisirs que nous aimons font eux-mêmes notre tourment. Les jouissances et les délices du corps se retournent contre nous comme autant de bourreaux. Celui-là, en effet, qui s'appuie sur ses biens et ses ressources d'autrefois, fatalement, ne parviendra ni à l'entière humilité du cœur, ni à la parfaite mortification des plaisirs mauvais. Or, autant par le secours de ses vertus, les extrémités de la vie présente et les pertes que l'ennemi peut nous infliger se supportent, je ne dirais pas seulement avec la plus grande patience, mais avec la joie la plus vive, autant leur absence laisse croître un élèvement pernicieux, qui pour le plus léger affront nous blesse des traits mortels de l'impatience. C'est alors que le prophète Jérémie nous adresse ces paroles. « Et maintenant, qu'as-tu à faire sur la route de l'Égypte pour aller boire de l'eau bourbeuse ? Et qu'as-tu à faire sur la route de l'Assyrie pour aller boire l'eau du fleuve ? Ta malice t'accusera et ton infidélité te reprendra. Sache donc et comprends quel mal c'est pour toi. Quelle amertume d'avoir abandonné le Seigneur ton Dieu, et que ma crainte ne soit plus en toi, dit le Seigneur.
C'était les lectures des Pères du désert, une émission proposée par Hélène.